Europe 1, votre matinale info, Thierry Dagiral.
Et voici votre premier journal de cette matinale, dimanche 21 février. Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Europe 1, il est 6h.
Le confinement, c'est un aveu d'échec de toutes les autres mesures qui ont été mises en place. Il faut commencer par les appliquer de manière très stricte pour justement éviter ce confinement.
Le message de ce médecin niçois, écouté sans doute par les autorités, mais c'est bien un reconfinement qui est envisagé aujourd'hui à Nice pour contenir l'épidémie. Reconfinement le week-end, voilà ce qui attend vraisemblablement les habitants.
Ailleurs en France, c'est pour l'instant le statu quo. On s'en tient au couvre-feu et c'est déjà trop pour les vacanciers qui ont toutes les peines du monde à profiter de leur séjour. Nous serons en Normandie.
Au Texas, 14 millions de personnes sont privées d'eau potable. Les canalisations ont rompu sous l'effet du froid glacial, inédit dans cet état.
Et puis en tennis, finale de l'Open d'Australie tout à l'heure, le jeune Daniil Medvedev défie Novak Djokovic.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Alors, quelles seront les restrictions sanitaires appliquées à Nice? Des centaines de milliers d'habitants sont ce matin dans l'attente.
Oui, ils savent que des mesures sont à l'étude pour lutter contre la flambée de l'épidémie dans leur région. Le taux d'incidence y est le plus élevé de France. Le ministre de la Santé hier a évoqué la mise en place de nouvelles restrictions. Elles seront annoncées d'ici ce soir. Johanna Chabas, on se dirigerait vers un reconfinement.
Oui, un reconfinement local est bien privilégié, mais seulement le week-end. Une mesure inédite en métropole depuis la deuxième vague. Tout est encore sur la table pour décider dans le détail des modalités de cette mesure. Est-ce que cela ne concernera que Nice? Probablement pas. Tout le littoral qui attire les touristes est dans le viseur. Le marathon de concertation entre le préfet, les élus locaux, les commerçants et les médecins se poursuit. Difficile de mettre tout le monde d'accord, car même pour ceux en première ligne, comme Michel Carles, infectiologue au CHU de Nice, le reconfinement n'est pas la solution.
On perçoit bien à quel point le reconfinement serait délétère pour les concitoyens qui sont déjà extrêmement en difficulté avec les mesures de restriction qui, depuis des mois et des mois, contraignent la vie de tous les jours. On fait passer le message que le confinement, c'est un aveu d'échec de toutes les autres mesures qui ont été mises en place. Il faut commencer par les appliquer de manière très stricte pour justement éviter ce confinement.
Cet infectiologue, invité d'Europe 1 hier soir chez Stéphane Place, incite d'ailleurs à assouplir les horaires de couvre-feu pour les commerces alimentaires afin de limiter les pics de fréquentation dans les magasins.
Les autorités d'ailleurs envisagent donc de reconfiner le week-end dans la région de Nice. On en parlera tout à l'heure à 8h15 avec le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui sera mon invité donc tout à l'heure.
À l'autre bout de la France, sur un autre bord de mer, le reconfinement n'est pas d'actualité, mais les vacanciers qui ont choisi la Normandie doivent tout de même s'adapter aux restrictions qui existent déjà, et notamment au couvre-feu. Visiblement, ça n'est pas si simple. Reportage à Deauville de Damien Mestre.
Il est 17h30, on attend pour aller acheter faire nos courses, juste avant que ça ferme.
Tous à la même heure, les touristes quittent la plage en urgence de la mer, direction les supérettes, histoire de quand même récupérer de quoi dîner. Et dans la queue, certains ont du mal à se croire vraiment en vacances.
On ne peut pas aller promener les gamins après 18h, on ne peut pas aller faire de courses après 18h, on ne peut rien faire.
Ce serait plus agréable si par exemple c'était ne serait-ce que 20h, bon, ce serait déjà un petit peu mieux, mais bon.
Ouais, non, ça me saoule.
Ce qui agace le plus, c'est l'absence des terrasses de restaurants. Et ce n'est pas les plateaux de fruits de mer à emporter que pourtant tout le monde s'arrache qui vont combler ce manque.
Les restos, c'est vraiment crucial dans les vacances. C'est vraiment le cœur des vacances. C'est là où on se met autour d'une table, on est servi, on parle entre nous. Des vacances sans restaurant, c'est pas comme d'habitude.
À la place, c'est donc système D. Certains se font livrer à manger avec parfois des scènes absurdes, comme devant cet hôtel où les clients attendent sagement le livreur alors que la pizzeria est à littéralement 50 mètres. Deauville, Damien Mestre, Europe 1.
Autre absurdité pour certains, les opticiens installés dans les plus grands centres commerciaux, ceux qui font plus de 20 000 mètres carrés et qui sont aujourd'hui fermés, eh bien ces opticiens n'ont pas le droit d'ouvrir leur boutique. Ça concerne un tiers de la profession qui demande aujourd'hui à pouvoir retravailler. André Balbi est le président du Rassemblement des opticiens de France.
Depuis le début de la crise, la santé visuelle a toujours été considérée comme indispensable par le gouvernement. En mars 2020, on nous a demandé d'ouvrir sans bénéficier de matériel de protection et de distribution des stocks d'État. On s'est débrouillé tout seul. Aujourd'hui, nous sommes la seule profession de santé à être fermée. Chaque jour qui passe, on considère qu'on va un peu plus loin dans un scénario catastrophique pour les Français. Sur l'année 2020, il y a eu à peu près 2,5 millions de consultations en moins chez les ophtalmologistes à cause des différents confinements. on est dans une situation tendue où il y a du retard et il faut rattraper ce retard. Et au moment où on a besoin de rattraper le retard, fermer les magasins d'optique, pour nous, n'a pas de sens. On considère que c'est une erreur grave.
Le président du Rassemblement des opticiens de France avec Élise Dangean. Sachez que hier en France, un peu plus de 22 000 nouveaux cas de Covid ont été détectés.
Direction l'Italie à présent, Marguerite, et la petite ville de Codogno en Lombardie. Vous vous en souvenez peut-être, c'est là-bas que s'est développé le tout premier foyer du Covid en Europe.
L'hospitalisation du premier patient, c'était il y a un an, tout pile. À Codogno, on a vu pour la première fois des scènes que l'on allait vivre quelques semaines plus tard. Les hôpitaux débordés, le confinement. L'an dernier, la ville a enterré en 2 mois autant de personnes qu'en une année normale. Un hommage sera rendu aux victimes aujourd'hui. Pour Europe 1, Blandine Hugonnet est retournée sur place.
Dans les couloirs du petit hôpital de Codogno, son directeur, le docteur Andrea Filippin, désigne une salle. C'est dans ce service que le tout premier cas italien a été hospitalisé en soins intensifs. Le patient qui marque le début de la première vague en Italie et dans toute l'Europe.
Pour nous, ça a été un choc. On s'est rendu compte qu'en fait, on était tout à coup l'épicentre de la contamination. Parce que juste après le patient, un des centaines ont débarqué. Mais un an après, on s'en est sorti.
À l'étage du dessous, les urgences ne sont plus débordées. Il n'y a plus que quelques cas à Codogno et dans les salles d'attente. Et désormais, on vient surtout pour se faire vacciner. Mais les habitants ici sont marqués à jamais. Devant l'hôpital, Edmondo est venu avec un petit groupe pour se recueillir en cette date symbolique. Un an après, ce retraité se rappelle.
Les sirènes des ambulances, puis le silence quand on a dû stocker les cercueils dans l'église. Interdit de faire un enterrement. C'est pour m'en souvenir que je suis là.
Quelques rues plus loin, devant les locaux de la Croix-Rouge de Codogno, un mémorial a été construit. Il est inauguré ce dimanche pour ne jamais oublier le sacrifice des soignants et rendre hommage aux premières victimes d'Italie. Codogno, Blandine Hugonnet, Europe 1.
6h07 sur Europe 1 et de l'Italie. On part aux États-Unis, Marguerite, qui affronte ces derniers jours une vague de froid sans précédent.
Oui, certains États y sont habitués, mais d'autres beaucoup moins, comme le Texas qui a enregistré cette semaine des températures avoisinant les moins 15 degrés. Un froid polaire dans des villes bâties pour résister à la chaleur. Résultat, de nombreuses installations n'ont pas tenu. Des millions de Texans ont été privés d'électricité.
Oui, aujourd'hui encore 14 millions d'habitants n'ont toujours pas accès à l'eau potable. La situation est de plus en plus critique, Alexis.
Oui, avec des files d'attente devant les magasins pour récupérer de l'eau en bouteille, les autorités demandent de faire bouillir l'eau du robinet pour la débarrasser des bactéries. Canalisation fissurée, puis gelée, des stations d'épuration à l'arrêt, la vague de froid a considérablement endommagé le réseau texan. La situation est dramatique dans les hôpitaux. En pleine pandémie, des patients ont dû être transférés dans d'autres établissements. Le personnel soignant a dû dormir sur place avec parfois des sanitaires inutilisables. Pour Bob Fenton, l'administrateur de l'Agence américaine d'aide d'urgence, la situation va rester précaire pendant plusieurs jours. Les températures vont augmenter et il s'attend à découvrir de nouveaux dégâts sur les canalisations et leur ampleur quand les Texans vont ouvrir leur robinet. Refaire fonctionner le réseau va prendre du temps d'ici et beaucoup d'eau devra encore être acheminée sur place. Joe Biden va déclarer l'état de catastrophe naturelle pour le Texas. Il se rendra bientôt sur place, sans doute la semaine prochaine, dit le président, quand sa venue ne sera pas un fardeau pour les équipes sur le terrain.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le secrétaire général de l'ONU condamne l'usage de la force meurtrière en Birmanie. Hier, 2 manifestants ont été tués par les militaires, 2 morts supplémentaires après le décès vendredi d'une opposante de 20 ans. Et puis le virus de la grippe aviaire peut-il se transmettre à l'homme ? La Russie annonce un premier cas de transmission interespèce. En France, ce risque à ce jour n'est pas connu. Voilà ce que répond le gouvernement français.
Marguerite, on passe au sport avec l'un des grands rendez-vous de la matinée, la finale masculine de l'Open d'Australie.
Novak Djokovic contre Daniil Medvedev, numéro 1 contre numéro 4 mondial pour ce premier grand chelem de l'année. Corinne Boulou.
Novak Djokovic est dans son jardin à Melbourne, un peu comme Nadal à Roland-Garros et Federer à Wimbledon. Le Serbe vise un 9e titre en Australie et n'a jamais perdu une finale sur la Rod Laver Arena. Malgré une alerte touché aux abdominaux lors du 3e tour, Novak Djokovic a prouvé depuis qu'il avait retrouvé ses moyens physiques. Et il aura besoin d'être à 100% face à Daniil Medvedev, de presque 10 ans son cadet, qui lui est sur une pente ascendante depuis sa victoire à Bercy, au Masters de Londres et en finale de l'ATP Cup. Le plus francophone des joueurs russes reste méfiant.
C'est lui le favori, il a joué 8 fois, il n'a perdu jamais ici. Donc. Après, moi, je prends le tennis différemment. Pour moi, c'est 50-50, il y a deux joueurs qui restent. Toujours finale de Grand Chelem, c'est deux joueurs qui étaient forts pendant les deux semaines. Et pour battre Novak, un des meilleurs joueurs de l'histoire de tennis, surtout ici à Melbourne, il faut être au top dans le tennis, physiquement et mentalement.
Medvedev, à 25 ans, dispute sa deuxième finale en Grand Chelem. Il fait partie de cette nouvelle génération appelée à prendre le relais au sommet du tennis mondial. En attendant, Djokovic a l'occasion de remporter un 18e titre du Grand Chelem et se rapprocher ainsi des 20 titres records de Federer et Nadal.
Corinne Boulou, est noté qu'hier chez les femmes, c'est la japonaise Naomi Osaka qui s'est imposée en football. 2 matchs nuls hier, 1 partout entre Saint-Etienne et Reims, même score entre Nantes et Marseille, c'est la 26e journée de Ligue 1. Tout à l'heure, on suivra 7 rencontres, dont le choc entre le PSG et Monaco, c'est à 21h.
Alors on parle de sport, du vrai sport. Hein. N'oublions pas tout de même que certains en sont toujours privés, les activités. En intérieur, Marguerite, sont toujours interdites aujourd'hui.
Oui, et pour ceux qui ne veulent pas couper le cordon, il ne reste qu'Internet pour s'entraîner. Un cours de judo derrière son ordinateur. Voilà le reportage de Zoé Pallier.
Tout le monde nous voit, tout le monde a mis son kimono, super. Alors, on va faire un beau salut tous ensemble comme au club.
Le tatami est bien vide, sans cri d'enfant ni odeur de chaussettes. Les yeux rivés sur la mosaïque de rectangles sur son ordinateur, Cyril enchaîne pas chassé et chute en arrière. Presque tous les élèves, une trentaine, sont connectés.
Lors du confinement cette année, au mois de novembre, on avait mis en place déjà des cours Zoom. Donc là, on reprend parce que ça marche bien. Les enfants, ils souhaitent garder le contact avec leur professeur de judo. Et puis, ils ont besoin énormément de se dépenser.
Octavien, 9 ans, est soulagé de ne pas avoir à ranger sa ceinture jaune. Orange, il a fait le vide dans sa chambre pour suivre l'heure de leçon en direct, presque comme au club, sauf que le partenaire a changé.
Je prends le coussin, on doit le mettre par-dessus soi et se retourner, faire comme si c'était l'adversaire. Moi, je préfère les cours normaux, mais là, on se voit, les profs nous donnent des conseils, c'est déjà quelque chose, c'est pas rien.
Octavien maîtrise désormais le haut sautogari, au moins face à ses boîtes de Lego. Il espère pouvoir tester bientôt cette nouvelle prise sur un adversaire en chair et en os.
Oui, le judo en vrai, ça doit quand même être un petit peu mieux que derrière
son
ordi.
Vous êtes sur Zoom comme ça à faire du sport, Marguerite ?
Non, alors ça, non. Je ne m'y suis pas mise encore. Non.